France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Homère philosophe, c'est notre série cette semaine, car les histoires de l'Iliade et l'Odyssée charrient toute une vision du monde et notamment une réflexion sur la puissance et l'impuissance face à l'événement. Aujourd'hui, les dieux imparfaits de Homère. Platon détestait ce qu'il appelait les histoires fausses d'Homère, et singulièrement la représentation homérienne des dieux, car ces dieux ne cessent de se faire la guerre entre eux et d'y impliquer les humains. Ils mentent, trompent, complotent, ils n'hésitent pas même devant le parjure, incitant à briser des serments qu'ils ont eux-mêmes suscités. Quel mauvais exemple pour la cité. Il est clair que les dieux de Homère sont plus qu'imparfaits, au regard de la morale même la plus ordinaire. Mais c'est peut-être que l'enjeu n'est pas de proposer des modèles de bonté. Rappelons que les monothéismes se font beaucoup de nœuds souvent à propos de la bonté de Dieu, observant que le monde abrite aussi beaucoup de mal. En défense, les monothéismes invoquent souvent le fait que ce Dieu unique a créé l'homme libre, ce qui est plus parfait que s'il ne l'était pas. Or, c'est la liberté humaine qui produit le mal. Il arrive même parfois que certaines théologies monothéistes mettent en balance puissance et bonté. Dieu est bon, mais manifestement, il n'est pas tout puissant. En contrepoint de tous ces problèmes, le polythéisme grec, lui, n'hésite pas à écorner les dieux sur les deux plans. Ils ne sont ni tout puissants, ni tout bons. Mais alors, si j'ose dire, à quoi servent-ils? Que nous disent-ils? Voilà nos interrogations ce matin. Bonjour Pierre Judet de la Combe.
Bonjour.
Helléniste, vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vos travaux sur Homère sont colossaux, si je puis oser un langage un petit peu homérien. Ils font autorité. Notre site les liste avec précision. De plus, on peut vous entendre depuis 2022 chaque week-end sur France Inter, Pierre Judet de la Combe, où vous produisez une émission intitulée « Quand les dieux rôdaient sur la terre ». Et bonjour Frédéric Ildefonse.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes spécialiste de philosophie grecque ancienne, directrice de recherche au CNRS. Les stoïciens sont notamment votre grande spécialité. Vous avez écrit par ailleurs un petit livre très intéressant intitulé « Il y a des dieux » publié aux Presses universitaires de France en 2012. Merci à l'avance de nous éclairer ce matin avec Pierre Judet de la Combe sur le polythéisme grec et singulièrement sur la vision qu'en donne Homère dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Pour commencer, je vous propose d'écouter deux passages de l'Iliade. Le fils de Zeus, Arès, dans le premier passage, a été blessé. Il vient se faire guérir, mais aussi se plaindre auprès de son père Zeus de la folie de la guerre de Troie, fomentée par les dieux eux-mêmes, a commencé, dit-il, par un autre enfant de Zeus, la folle déesse Athéna.
Arès arriva au séjour des dieux, l'abrupt Olympe, et vint s'asseoir à côté de Zeus, fils de Cronos, le cœur en chagrin. Il montra le sang immortel qui coulait de sa plaie. Gémissant, il lui adressa des mots ailés. « Zeus, père, tu ne t'indignes pas de voir ces actes de force? Sans fin, nous, les dieux, avons à subir des tourments qui glacent volonté contre volonté quand nous voulons rendre hommage aux hommes. Nous sommes tous contre toi, car tu as engendré une fille folle que je maudis. Elle a toujours en tête des actes criminels. Nous autres, tous les dieux qui sommes dans l'Olympe, nous t'obéissons et chacun t'est soumis. Elle, tu ne l'attaques ni en parole, ni en acte. Tu la laisses faire, car tu as engendré toi-même ce désastre d'enfant. Aujourd'hui, le fils de Tidée, ce Diomède de tous les excès, elle lui a permis de se déchaîner contre les dieux immortels. D'abord, il a blessé Cypris, de près, d'un coup au poignet. Puis, égal à un dieu, il s'est rué contre moi. Mes pieds rapides m'ont soustrait, sinon longtemps, j'aurais là même, dans l'affreux charnier, enduré mes souffrances. Ou bien, vivant, j'aurais sans ardeur subi les coups du bronze. Le regard de travers, Zeus qui rassemble les nuages lui dit « Ne viens pas, toi, l'inconstant, t'asseoir près de moi pour m'inauder. Des dieux qui occupent l'Olympe, tu es celui que je déteste le plus. Ton amour va toujours aux querelles, guerres et batailles. Tu as fait tienne la rage sans obstacle, sans concession, des rats que je peine à maîtriser par mes paroles. Ce que tu souffres ici vient, je pense, de ces encouragements. Mais je refuse que tu restes plus longtemps dans la douleur, car tu es né de moi et ta mère t'a fait naître pour moi. Si, ravageur comme tu étais né d'un autre dieu, tu te trouverais depuis longtemps bien en dessous des fils d'Ouranos. » Il dit cela et ordonna à Paéon de le guérir.
De fait, cette folle d'Athéna, comme le dit son demi-frère Arès, il parle même à son sujet d'un désastre d'enfant, il est très en colère contre son père Zeus. De fait, cette folle d'Athéna non seulement n'est pas toujours bien contrôlée par Zeus, mais quand elle l'est, c'est parfois que Zeus lui demande explicitement de recréer du conflit, d'inventer une situation relançant les hostilités entre Grecs et Troyens, alors même qu'auparavant, ses ennemis, encouragés par les dieux, avaient établi un traité de paix. Écoutez encore l'Iliade.
Zeus adressa aussitôt à Athéna des mots ailés. « Va tout de suite vers l'armée parmi Troyens et Achéens. » Et fait en sorte que les Troyens commencent les premiers à blesser les Achéens très glorieux en violant les serments. Disant cela, il excitait Athéna déjà impatiente. D'un saut, elle descendit les cimes de l'Olympe. Comme l'astre qu'envoie le fils de Cronos à la pensée retorse, prodige pour les marins ou pour une ample armée d'hommes resplendissant, de lui jaillissent des milliers d'étincelles, pareil à lui, Pallas Athéna s'élança sur la terre et s'abattit au milieu d'eux. La stupeur à ce spectacle prit les Troyens maîtres des chevaux et les Achéens aux bonnes jambières. On disait, en se tournant vers son voisin, « Y aura-t-il la guerre et l'affreuse mêlée à nouveau ? Ou est-ce l'amitié entre les uns et les autres qu'établit Zeus, lui qui chez les hommes administre les guerres ?» On parlait ainsi parmi les Achéens et les Troyens.
C'est vraiment la pagaille hein, entre les dieux, Pierre Judée de la Combe. Zeus soit ne contrôle pas Athéna, soit lui demande de relancer les hostilités. C'est un parjure par rapport au serment qu'ils avaient exigé eux-mêmes des hommes. Ce désordre, que nous dit-il ?
Mais c'est justement ça tout le problème que pose l'épopée. C'est-à-dire que les dieux sont différents, ils ont des domaines différents donc, sur lesquels ils légifèrent. Et donc Athéna, c'est à la fois, on peut dire, une pensée rationnelle, c'est l'artisanat, c'est une ingénieure, mais c'est aussi la guerre. Arès, ce n'est que la guerre, il est l'amant d'Aphrodite qui n'est que l'amour, et les deux se ressemblent en fait. Mais donc ils ont leur domaine. Et Zeus est là pour faire en sorte qu'un dieu n'empiète pas sur le domaine de l'autre. C'est-à-dire que le polythéisme grec est une forme de pensée, de religion extrêmement politique. C'est-à-dire il y a des fonctions, des honneurs, comme on dit, des timaï, qui sont répartis entre les dieux. Et le dieu suprême n'est pas le dieu qui fait tout. Il peut essayer d'une certaine manière. Il y a souvent la tentation de dire tout ça c'est du Zeus, donc tout ça a un sens précis. Donc on peut voir quelque chose comme un destin imposé par Zeus. Mais en réalité, Zeus doit improviser en fonction de ce qui se passe entre ses enfants. Donc en l'occurrence, Athéna et Arès, mais aussi dans cette version par Homère, Aphrodite, et ses frères et sœurs, et donc ceux qui ont été ses parents. Là, il y a une diversité, puis il y a des dieux cachés, des dieux, etc., les dieux nocturnes, tout ça. Et donc, c'est à la fois le désordre, c'est la diversité, et la question, c'est mais quel sens ça a, non pas en soi. Ça, oui. Ce serait la théologie, ce serait les philosophes qui diraient ça, qui disent en général ça marche pas ce truc là. Bon, il faut un concept de Dieu qui soit beaucoup plus cohérent, parfait, etc. Mais pour un poète comme Homère, c'est qu'est-ce que ça nous fait ? Parce que pour dire en un mot, bon, je sais pas si Frédéric Lefond sera d'accord, les dieux pour les Grecs de ce moment-là, les dieux c'est le réel. C'est ce qui fait que vous arrive ceci ou cela, qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'a pas prévu. Et si on n'a pas fait la prière qu'il faut, si un champion de tir à l'arc ne promet pas à Apollon une hécaton, et ben sa flèche va rater le but. Donc les dieux, c'est ce qui fait que les choses arrivent telles qu'elles devaient arriver. Et là, dans l'Iliade, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est d'une complexité inouïe. Donc, les dieux ont chacun leur point de vue sur ce qui doit arriver. Athéna pense que les Troyens doivent tomber. Arès est du côté des Troyens, mais il est pour la guerre. Et Arès, il est pour l'égalité, de cette manière, entre les combattants. Aphrodite, évidemment, est pour les Troyens, à cause du jeune et beau Paris. Donc, les dieux sont...
Zeus, voilà. Il est un peu
alors,
divisé,
c'est ça. C'est ça le point. Et alors, c'est pour ça que, justement, ce rapport à la philosophie est passionnant, parce qu'au début de l'Iliade, on dit, voilà, chante la colère d'Achille, qui a fait une des monstruosités. Donc, pour ça, le poète dit, moi, je la maudis, cette colère. Parce qu'il y a une impiété énorme. Des milliers de cadavres de Grecs n'ont pas été enterrés. Ils ont été livrés aux oiseaux. Et le poète ajoute, ainsi se réalisait la décision de Zeus. Ce qui est invraisemblable, puisque Zeus ne peut pas vouloir une telle impiété, un tel sacrilège, laisser tous ses cadavres sans sépulture.
Et puis donc, il a un fils, non, qui est un peu chez les Troyens, Sarpédon.
Alors,
Zeus,
il y a son fils aussi, et qui est donc qui est fils chéri, etc. Donc là, toute une histoire compliquée. Parce que Troie, c'est une espèce d'âge d'or, donc et c'est Sarpédon est encore plus d'âge d'or, c'est la Lycie, c'est-à-dire c'est le pays de la lumière, quoi, en Asie. Et Zeus va accepter que son fils chéri, Sarpédon, meure, pour une raison qui nous paraît complètement hallucinante. Il faut que Sarpédon, un immense champion, un immense roi glorieux, soit tué par qui ? Par Patrocle. L'être humain le plus chéri par Achille. Pour que Patrocle soit plein d'hubris et de confiance en lui, aille bien au-delà de sa mission, et donc aille essayer de prendre Troie, et là, Patrocle, dans cette hubris, va se faire tuer par Apollon, en fait. Et donc, c'est comme ça que Achille, l'ami de Paris, va abandonner sa colère contre les Grecs et va vouloir venger son ami Paris, va reprendre les armes ou prendre de nouvelles armes, voilà.
Donc, quelle que soit juste pour qu'on comprenne, la tendresse de Zeus pour son fils, il pense quand même que, à un moment, les Grecs doivent, enfin, je veux dire, les Athéniens doivent lancer une énorme offensive contre Troie. C'est dans la logique des choses, la logique de cette guerre. On en reparlera, cette logique du destin. Et effectivement, il doit accepter que son fils Sarpédon, dans le camp troyen, meure.
Alors, et du coup, il verse une énorme pluie de larmes, de sang, pour montrer que voilà, la mort de Sarpédon sera l'occasion de combats incroyables, quoi, comme les combats de 14-18, si on peut dire.
Donc tout le monde est impuissant, même Zeus, il n'arrive pas à tout avoir, il doit concéder, en l'occurrence lâcher sur son fils pour...
C'est ça
qui est terrible.
Et il pleure.
Tout le monde pleure, ça c'est le... qu'on retrouvera demain, car non seulement les héros pleurent, beaucoup, les hommes, c'est pas du tout réservé aux femmes, mais les dieux aussi. Alors, je me tourne maintenant vers Frédéric Ildefonse. L'impuissance des dieux, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Pourquoi ?
En fait, je sais pas si c'est l'impuissance des dieux qui m'intéresse, sinon plutôt le fait qu'ils ne soient pas tout-puissants.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardonnez-moi, c'est...
Non, mais...
C'est ça. Et pourquoi c'est important qu'il ne soit pas...
C'est important parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est le polythéisme. Et sûrement, pour essayer de s'approcher du polythéisme, il faut faire tomber un certain nombre de filtres ou un certain nombre d'écrans. Et peut-être qu'un de ces écrans, c'est la toute-puissance divine. Mmh. C'est-à-dire l'idée qu'il faut que le Dieu soit tout-puissant. Ou qu'il faut que le dieu, comme chez Platon, ne change pas de forme. Ou que le dieu doit être tout à fait désaffecté. Et qu'il faudrait reléguer les affects...
Sans émotion.
Voilà. Et qu'il faudrait reléguer les affects à la pathologie. En fait, on voit, il y a des paquets d'affects qui circulent chez les dieux aussi.
Ah, ça, c'est sûr. Ils font des caprices. Arès engueule son père. Finalement, se fait réprimander par Zeus. On vient de l'entendre. En fait... Ils sont humains trop humains.
Alors moi, je ne pense pas qu'ils le soient, pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que, bon, il y a d'autres personnes qui ont travaillé plus que moi sur cette question et qui ont parlé justement de l'obstacle que constitue l'anthropomorphisme moral ou l'anthropomorphisme immoral. Et c'est parfois écrit IM, entre parenthèses, moral. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous pouvez nous expliquer cette distinction ?
Ben, là, je me réfère surtout aux travaux de Gabriella Pironti. Il y a un article qu'elle a écrit qui porte ce titre d'anthropomorphisme moral ou d'anthropomorphisme immoral. En fait, il faut faire attention à pas se laisser happer quand on lit cela à ce qui nous ressemble, à nous les mortels. Et Gabriella Pironti, comme aussi dans un autre article Françoise Frantisi Ducroux, avait insisté sur les limites de l'anthropomorphisme moral et de l'anthropomorphisme immoral. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous happer, des ressemblances. Ah oh ben ils se disputent, ah oh ben ils sont traîtres, ah oh ben ils sont mortels, et qui nous empêchent d'apercevoir d'autres traits qui ne sont pas humains et sur lesquels ils s'en, comment dire, et par lesquels ils l'emportent sur les humains.
Par exemple, le fait qu'il puisse changer de forme.
Par exemple, le fait qu'il puisse changer de forme, qui n'est pas du tout un problème. Et c'est plutôt là aussi, Gabriella Pironti, elle parle de morphisme variable. C'est moins une métamorphose, parce que c'est pas un changement de forme nécessairement en continu. Même si je crois que dans l'Odyssée, on voit à un moment que Athéna, sous la forme d'un certain humain, devient un oiseau. Donc il peut y avoir des moments de métamorphose, mais sinon il y a des morphismes variables. Fondamentalement, ils sont invisibles, et quand ils se donnent à voir, ils se donnent à voir sous des formes différentes. Et quand ils se donnent à voir aussi, ils l'emportent énormément sur les hommes, à propos d'anthropomorphisme, pas nécessairement moral, par un éclat qui est tout à fait éblouissant. On peut être foudroyé. C'est Mélée, la mère de Dionysos, a été foudroyée par Zeus.
Donc l'invisibilité, doublée de la possibilité d'adopter des formes multiples, ça c'est la puissance. Effectivement, Athéna ne sera pas reconnaissable quand Ulysse arrivera à Ithaque. Les dieux, c'est un personnage dans lequel il ne reconnaît pas Athéna. Donc ça c'est leur puissance. Y a-t-il des limites à cette puissance ?
Alors oui, je pense, et Pierre-Judy Lacombe en parlait, l'affaire c'est le polythéisme, il me semble, et sa variante, sa version chez Homère, mais il y a de plus en plus de spécialistes du polythéisme grec qui vont chercher chez Homère des choses sur le polythéisme lui-même, c'est-à-dire, oui, la limitation, elle va de pair avec le collectif des dieux, ce que j'appelle le collectif des dieux. Et ce que Pierre a dit sur la répartition des fonctions ou la répartition des qualités. C'est-à-dire, vous demandiez tout à l'heure, finalement, à quoi servent-ils ? Ben, ils servent à tout. Ils servent à tout. C'est-à-dire, tout ce qui se passe peut être référé à des divinités qui ont un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de territoires d'action, et fondamentalement, les dieux, plus que des personnes, sont, Vernon disait, des puissances avec un grand P, et ce sont des dieux, ce que dit Gabriella Pironti aussi, des dieux agissants. Et fondamentalement, c'est l'action qui va décider de beaucoup de choses dans la limitation que rencontre tel ou tel dieu.
Alors ce que j'entends là dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, leur rapport entre eux, les dieux, c'est un rapport politique et même démocratique. C'est-à-dire, certes, il y a Zeus le chef, mais on voit combien, si j'ose dire, il n'arrive pas toujours bien à chefer. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de conflits. Alors il existe, vous faites souvent référence l'un et l'autre à l'importance des travaux de Nicole Laureau sur la Grèce ancienne. Il y a un texte très célèbre d'elle qui s'appelle « Le lien de la division » sur la démocratie athénienne, qu'on peut retrouver dans le volume « La cité divisée » chez Payot dans la collection « Critique de la politique » 1997. Nicole Laureau dit que la démocratie, c'est la stasis, disaient les Grecs, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, veut dire le tumulte et le conflit, et pas la stase telle que nous. C'est le contraire, c'est pas l'immobilité, c'est justement le conflit permanent, la limite que chacun constitue par rapport à l'autre, parce que nous devons fonctionner ensemble. Au fond, est-ce que Homère, Pierre Judé Lacombe, veut nous peindre le tumulte démocratique.
Oui, alors juste pour venir un tout petit peu en arrière sur l'anthropomorphisme, je dirais il faut plutôt parler du théomorphisme des hommes. Ce sont les héros qui, dans des moments extraordinaires d'une cruauté inouïe souvent, ont cette lumière, donc le kudos, et ont cette espèce de gloire, donc ils sont quasi divinisés. Oui. Simplement pour dire, comme dans c'est une religion, il n'y a pas de promesse de salut, l'âge d'or, l'âge où on était comme les dieux, c'est le passé. Il n'y a aucune promesse d'avenir. Donc il faut se débrouiller dans le présent, et avec des dieux qui en fait sont absents. Quand un dieu apparaît, c'est très rare qu'ils sont là, ils se manifestent, et en plus ils sont pas reconnaissables souvent. Il faut vraiment être très doué pour les reconnaître. Donc les dieux, ce sont pas des choses visibles. Sauf que alors là où il y a de l'anthropomorphisme, c'est plutôt du polysmorphisme, c'est-à-dire que l'Olympe est conçu comme une cité, et donc il y a une pensée politique dans Homère, dans Hésiode. Moi, je pense
donc l'Olympe, c'est une cité.
C'est une cité. Il y a déjà la cité.
C'est politique, c'est démocratique.
C'est pas vraiment démocratique. Mmh. C'est plutôt oligarchique. Enfin, donc, avec des tendances tyranniques. C'est-à-dire que Zeus, lui, il raisonne. Donc, c'est le garant de la régularité, de la stabilité, du partage. Parce qu'en grec, vous savez, le mot loi, nomos, ça veut dire le partage. D'abord, c'est pas une chose abstraite. C'est ce qui fait qu'un tel, chaque dieu a son dû, et donc se le fait respecter. Même un des sens de nomos, si on change l'accent, c'est le pâturage. C'est là où on emmène son troupeau, donc qu'on a d'abord partagé. Donc Zeus est garant de ça. Mais là, il y a un problème énorme qui se pose dans le mythe et pour les poètes, c'est l'histoire. D'accord, il y a un ordre des choses. Zeus a voulu la spatialisation, parce qu'avant, son père avait fait un partage qui était assez branlant. Le grand-père, Uranos, c'est pas de partage du tout, là, donc, etc. Là, c'était le désordre. Zeus a fait un partage meilleur, où il a récupéré des dieux qui avaient été abandonnés par son père, etc. Mais, je veux dire, une fois que le partage est fait,
oui.
Qu'est-ce qu'on fait du temps? Donc on a spatialisé le monde.
Mais qu'est-ce qu'on fait même du désir? Chaque dieu a des désirs.
Les dieux ont des désirs, mais ils peuvent pas aller trop loin parce qu'ils vont buter contre l'autre dieu et puis contre la loi du père, si on veut, la loi de Zeus, qui est un souverain, mais qui n'est pas un tyran. Justement, c'est pas lui il est omniscient, mais il est pas omnipuissant, omnipotent. Et donc c'est là que les humains sont importants. Les humains, eux, ce sont des petits êtres de désir parce qu'ils n'ont rien de manque et ils vont mettre du désordre partout et donc ils vont mettre de la vie. Ils vont faire l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour... Comment introduire un lien? Alors, c'est pas une question philosophique, c'est vraiment une question de savoir comment comprendre la vie, s'orienter dans la vie, quoi. Et au jour le jour, c'est très, très concret. Comment faire pour comprendre le rapport entre les événements et ce monde idéal, si on peut dire, mais figé, où les dieux banquettent ensemble, essaient de pas trop s'engueuler, etc. Mais bon, en fait, que si. Et alors, c'est là que on peut renverser le point de vue, c'est-à-dire que Homère... C'est pas une théologie. Ça l'intéresse pas. Il y avait des théologiens à l'époque. Ça l'intéresse pas. Il part d'un événement immense, qui est la chute de Troie, qui était nécessaire. La preuve, c'est qu'il y a plus de Troie. Aucune ville grecque ne ressemble à Troie.
Quand vous dites nécessaire, c'est une sorte de logique du destin, au-delà même des désirs des dieux?
Alors, c'est ça tout le problème. C'est que, normalement, on sait que d'un point de vue juridique, Troie doit tomber parce qu'ils ont volé Hélène. Mais ça n'apparaît presque jamais dans l'Iliade. Un poète comme Hésiode va dire, oui, dès qu'une ville a commis un crime, les rois ont commis un crime, la ville va être détruite, etc. Ça, c'est des formes de justice divine. Ça n'apparaît jamais dans l'Iliade, alors qu'on sait que c'est ça. Et le jugement de Paris, il est mentionné à la toute fin en passant, quoi, qui a choisi Aphrodite, donc le rapte d'Hélène, etc. Homère ne s'intéresse pas à la raison divine qui fait que Troie doit tomber. Il dit simplement, on sait que Troie n'est plus là, et aucune ville grecque ne peut ressembler à Troie, à cette prospérité, etc., et en Asie non plus. Donc, c'est une époque finie. Mais au lieu de faire une théologie, ou une mythologie, au sens où on dit, c'est une époque ancienne, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Du point de vue humain, et du point de vue des dieux, et des différents dieux. C'est là qu'intervient le polythéisme. Et les dieux sont confrontés à un événement qui, pour avoir lieu, suppose que les dieux transgressent eux-mêmes leurs propres règles.
D'où le parjure.
D'où le parjure.
C'est l'événement, le fait qu'il y ait de l'événement, qui surprend évidemment les humains, mais aussi les dieux, qui oblige à du nouveau, à réfléchir, à inventer.
Qui est du nouveau. Et c'est, moi je pense, pour le dire un peu brutalement, l'Iliade, c'est un poème sur l'histoire. c'est quoi l'histoire, le temps historique, ce qui fait que les choses changent. Et comme il n'y a aucune promesse divine, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de salut. Ça, pour un grec, ça n'existe absolument pas, sauf chez Orphée, c'est certain. Donc, c'est faut se débrouiller dans le présent. Et comment ils ont fait? Et comment Zeus a fait lui-même? Il a dû accepter des sacrifices énormes qui l'ont fait pleurer, la mort des hommes qu'il aime, de son fils, etc. Les querelles, disant, quand on lui demande de venger Achille, il dit « Oh là là, bon, maintenant je vais avoir des problèmes avec ma femme, etc. » Donc là, c'est même un niveau petit bourgeois, c'est exprès. Là, Homer a beaucoup, beaucoup, énormément d'humour. Il faut que... Comment faire pour que, au-delà des règles, et le serment est la règle absolue, puisqu'on jure par l'ordre des choses, avec un mouton noir, un mouton blanc, ça c'est le ciel, la terre, et avec un mouton qu'on offre à Zeus, donc c'est l'ordre des choses, il n'y a pas plus contraignant pour les dieux et pour les humains, que le serment. Or, les Grecs ont fait la paix. Donc, c'est même pas une trêve, c'est la guerre est finie. Au début de l'Iliade, chant 3. Et alors, les dieux disent, mais quand même, nous, on voudrait que 3 tombent. Alors, on ne sait pas ce que pense Zeus. Enfin, Zeus s'amuse. Il laisse faire une divinité, Athéna, qui va dire à un Troyen, bah, tu vas être parjure, tu vas tirer sur Ménélas.
C'est l'extrait qu'on a.
Et elle s'arrange pour que Ménélas ne soit pas mort, sinon la guerre était finie. Et donc, les dieux se mettent du côté de la transgression pour qu'il y ait du temps. Et comme vous dites, qu'il y ait du nouveau, qu'ils veulent, certains dieux, c'est leur petit point de vue à eux, veulent à tout prix que 3 tombent, parce qu'Athéna, c'est parce qu'elle n'a pas été choisie par Paris.
Et oui, donc c'est tout le temps la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, et comment on fait, que faut-il? Alors le faut-il, c'est pas un faut-il moral, c'est...
Non.
C'est un faut-il un peu politique, et en plus ils sont pas d'accord entre eux, donc c'est une sorte de petite cité. Mais je voudrais demander, on va revenir à cette affaire de l'Olympe comme modèle de cité plurielle et tumultueuse. Mais vous dites aussi, je crois, vous le dites dans votre très beau texte, il y a des dieux, et dans vos analyses, on le sent, Frédéric Ildefonse, que le problème est aussi, et ça vous intéresse, que les dieux représentent des possibilités psychiques ou des possibilités de pensée. Qu'au fond, si nous sommes multiples, là il y a un petit clin d'œil à la psychanalyse que vous n'hésitez pas à faire, nous sommes pluriels. Et la pluralité des dieux est-elle un écho à cette pluralité des moi que nous hébergeons chacun en soi-même?
Alors oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En effet, c'est le rapport entre multiplicité psychique et multiplicité divine. Je n'en ai pas fini d'explorer cette affaire. Mais certainement, il y a quelque chose qui se passe là et quelque chose sûrement qui a à voir donc qui a à voir avec une phrase que j'aime beaucoup d'un commentateur qui s'appelle Atkins, qui disait que ce dont il fallait... comment dire, que ce qu'il fallait expliquer, ça n'était pas, comment dire, la fragmentation de la personnalité homérique, mais bien plutôt, comment dire, la genèse d'une personnalité égocentrée. Ben oui, c'est-à-dire que, en effet, nous hébergeons, je dirais plutôt, une multiplicité d'instances psychique plutôt que de moi, parce que le moi, généralement, c'est ce par quoi on chapeaute le tout. Le brave petit moi, disait Lacan, qui revient par la fenêtre et toutes les embrasures possibles, hein, quand on a fermé pourtant les portes, qu'on les a cadenassées, etc. Et hop, le petit moi, le brave petit moi revient. Et qu'est-ce que ça donne quand, au contraire, ce partage qu'on voit de la divinité en pluralité, si en effet on réfléchit à nous-mêmes, psychiquement, en des termes qui ne sont pas spontanément unifiés et qui ont plutôt à voir avec une économie de tension, avec quelque chose de profondément relationnel, avec quelque chose de multiple.
Ce sont nos voix intérieures. Les dieux sont des voix intérieures.
Sans pour autant qu'on soit en plein chaos. Mais je veux dire, on n'est pas en plein chaos non plus dans l'Assemblée des dieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du relationnel. Et c'est ça qui est important. Et en fait, on trouve même dans la philosophie platonicienne, alors même qu'elle s'en prend à Homère assez vertement sur certains points, une théorie de l'âme qui a à voir justement avec cette alternance entre harmonie et disharmonie, avec cette recherche tout de même plutôt de l'harmonie, qui aura plutôt à voir avec la paix qu'avec la guerre.
On va venir à Platon, ce qui nous permettra de retrouver la question de la cité et de la démocratie, parce que s'il y a quelque chose comme un tumulte un peu démocratique entre les dieux, on comprend bien aussi que Platon, qui déteste la démocratie, n'aime pas du tout Homère. Donc on va reprendre ce problème. Néanmoins, vous dites, Frédéric Ildefonse, que Platon est sensible à ce motif du multiple dans l'âme. Je vous propose donc d'écouter cet extrait de la République de Platon, c'est dans le livre 2 de la République. Écoutez.
Il nous faut d'abord, semble-t-il, superviser les créateurs d'histoire. Approuver l'histoire qu'ils créeront si elle est convenable, et sinon la désapprouver. Et celles qui auront été approuvées, nous persuaderons les nourrices et les mères de les raconter aux enfants, et de modeler leurs âmes par ces histoires bien plus encore qu'elles ne modèlent leur corps avec leurs mains. Quant à celles qu'elles racontent à présent, pour la plupart il faut les rejeter. Celles, dis-je, que Hésiode et Homère nous racontent l'un et l'autre, ainsi que les autres poètes. Car ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont composé pour les hommes des histoires fausses, et qui les ont racontées et continuent à les raconter à présent, lorsqu'on représente mal par la parole ce que sont les dieux et les héros, comme un dessinateur dont le dessin ne ressemblerait en rien à ce dont il voudrait dessiner la ressemblance. Pour commencer, dis-je, la plus grande fausseté, celle qui porte sur les êtres les plus importants, celle qu'a dite, et d'une façon qui n'est pas convenable, celui qui a prétendu qu'Ouranos aurait accompli l'acte que Hésiode lui attribue, et que Cronos à son tour l'en aurait puni. Or ces actes de Cronos, et ce qu'il aurait subi de son fils, même s'ils étaient avérés, je ne croirais pas qu'il faudrait les raconter aussi facilement à des êtres jeunes, dépourvus de bon sens, le mieux serait de les taire. Ni non plus généralement, dis-je, que les dieux fassent la guerre, complotent, et combattent contre d'autres dieux. D'ailleurs, ce n'est même pas vrai. Si du moins on veut que ceux qui vont garder notre cité considèrent comme la chose la plus déshonorante de se traiter aisément les uns les autres en ennemis. Il faut bien éviter de leur raconter des histoires et de représenter des tableaux colorés de combats de géants et des nombreuses autres querelles de toutes sortes qui auraient opposé dieux et héros à leurs propres parents et à ceux de leur maison. Mais si nous voulons avoir une chance de les convaincre que jamais aucun citoyen n'eut d'hostilité envers un autre, et que ce serait d'ailleurs chose impie, c'est précisément cela qu'il faut plutôt leur faire dire à l'enfance par les vieillards et les vieilles femmes, et il faut aussi, à l'intention des plus âgés, contraindre les poètes à composer des discours qui aillent dans ce sens.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous vous proposons cette semaine une série sur Homère. Homère philosophe, l'Iliade et l'Odyssée charriant une véritable vision du monde que nous essayons de comprendre. Je suis en compagnie de Pierre Judet de Lacombe et de Frédéric Ildefonse. Frédéric Ildefonse, Platon, dans le texte que l'on vient de lire, dit sa détestation d'Homère. Au passage, il le dit aussi d'Hésiode, mais on va rester sur Homère. Il n'aime pas la pluralité des dieux. Il trouve que ça crée du désordre, ça crée un sens permanent de l'affrontement, de l'ennemi, et il trouve que c'est un mauvais exemple pour la cité. La multiplicité que vous avez saluée dans le polythéisme grec, Frédéric Ildefonse, c'est vraiment ce que le philosophe en tout cas de tendance platonicienne, ne supporte pas.
En fait, ce qu'il supporte pas là, c'est certaines histoires. Il supporte pas l'histoire de l'émasculation d'Ouranos. Il supporte pas les combats de géants, dit-il. C'est-à-dire que ce qu'il veut pas, c'est qu'on raconte aux enfants, dont les âmes sont les plus malléables, des récits qui vont surimposer sur eux ce que Platon juge de mauvaise représentation des dieux. Il revient d'ailleurs à Laetitia Mousse, dans un très beau livre à paraître, Le philosophe qui aimait les histoires, d'avoir souligné que Platon n'évacue pas toutes les histoires sur les dieux, mais celle-ci. C'est-à-dire, il ne veut pas que de mauvais tupoi, en grec, de mauvaises empreintes, soient imprimées sur l'âme malléable des enfants. Il ne veut pas que ces âmes soient mal orientées relativement à la divinité.
Mais le multiple et le conflit, c'est important pour s'éduquer. Et notamment quand on vit dans une démocratie. Donc ce qu'on sent bien là, chez Platon, c'est qu'il n'aime pas cette politique-là. Vous êtes d'accord, Frédéric Ilfonse?
En tout cas, c'est sûr qu'il ne veut pas que des récits, des récits de combat, des récits d'inimitié, s'inscrivent dans les âmes des enfants plutôt que des récits de paix et d'harmonie, clairement.
Alors évidemment, là, nous avons une petite question. Il est fort possible qu'on ne puisse pas y répondre, mais qui c'était Homère? Quel est son rapport à la question politique?
Oui, Platon et Homère. Oui. Homère non plus n'aime pas ces histoires.
Ah.
Il évacue tout. Il n'aime pas du tout ces histoires. Il n'y a pas l'émasculation d'Ouranos pour connaître Aphrodite. Aphrodite, il l'a fait naître de Dionée, donc une petite déesse, donc mais elle est fille de Zeus. Il n'aime pas les géants. Il n'en parle pas. Tout ça, tout ce qui est merveilleux, toutes ces grandes choses, il évacue. Il connaît, mais il évacue. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas alors les guerres entre les dieux. Il s'amuse, il y a des chants de l'Iliade, c'est des combats entre les dieux, mais ça tourne vite court, quoi. Les dieux, ils ont qu'une envie de se taper dessus, quoi, à part quelques-uns. Donc, paradoxalement, Homère, tout ce que Platon refuse, Homère l'a évacué. Bon, de même que le sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon, il a évacué tout ça. Ça, il veut pas.
Il veut pas, mais il en parle.
Il l'évacue complètement, quoi. Donc, il y a des blancs, alors on sait que, bon, parfois, il y a des petites allusions comme ça, mais c'est à peine. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le traitement, comment les dieux peuvent eux-mêmes se battre entre eux, mais s'opposer entre eux, face à cet événement gigantesque qu'est la colère d'Achille, qui est le dérèglement absolu d'un être humain, l'être humain le plus grandiose, le plus fort qui soit, à savoir Achille. Ce dérèglement, ça c'est ce qu'a fait Homère, et ça je reviens tout de suite à votre question, c'est ce dérèglement, la colère d'Achille, qui crée une impiété, un sacrilège gigantesque que Zeus a voulu, enfin ou a sanctionné en tout cas, c'est ce qui explique la fin de Troie. Et la fin de Troie, c'est quoi? C'est la fin de l'âge héroïque. C'est la fin, après il n'y a plus rien. Il y aura un tsunami qui va faire que le camp des Grecs, tout ça, le mur des Grecs va être balayé. On verra rien et les archéologues peuvent toujours chercher le camp des Grecs sur les côtes de Troie. Donc c'est effacé. C'est une période définitivement close, mais là où le coup de génie d'Homère, c'est pour ça que je pense que Homère, c'est quelqu'un. C'est peut-être plusieurs personnes. Moi, je pense que c'est un groupe, comme les Doors ou comme les Kings.
Comme les Doors. Vous pouvez pas me faire plus plaisir si c'est mon groupe de rock préféré.
Bon. Et donc, c'est une école, en tout cas. Bon, c'est un groupe de poètes. Et ils ont dit, on va raconter l'histoire de l'humanité, qui est la fin de l'âge des héros, à travers un événement très, très singulier de toute la guerre de Troie, la colère d'Achille. C'est la colère d'Achille va nous suffire pour rassembler tout ce qu'on peut dire sur cette légende de Troie et aussi sur l'histoire de l'humanité avec notamment la fin de l'âge des héros, par exemple le déluge qui était partout, qui était donc en Mésopotamie, qui était bien connu des Grecs. Homère n'en veut pas. Et ça aurait été un des moyens de supprimer Troie, ou de supprimer les héros. Et il en fait un débordement des fleuves pour simplement freiner Achille, qui est tellement en colère contre les Troyens parce que Patrocle est mort, que Achille prendrait Troie avant l'heure dite. Donc c'est extraordinaire. Donc là, il s'amuse avec les grands thèmes. Homère s'amuse avec les grands thèmes mythologiques pour se concentrer sur ce que ça veut dire que la colère d'Achille, comme dérèglement.
Ouais. Alors sur le problème de l'héroïsme, des héros qui pleurent et qui se mettent en colère, bon, ça va être au cœur de notre émission de demain.
D'accord.
Mais j'ai juste besoin en fait d'un petit cadrage historique. Il écrit quand Homère? On dit toujours 8e siècle notre ère. Dans quel contexte politique est-il un visionnaire, par exemple, sur la démocratie? Quand écrit-il alors, et qui est-il? Ça, vous m'avez répondu, alors, c'est un groupe comme les Doors.
Ça, alors, on ne sait pas. Sans doute qu'il n'a pas écrit. L'écriture était connue dès le début du, et répandue dès le début du 8e siècle. Puisqu'on a trouvé un écrit même près de Rome, donc le nom d'une tisserande, Eulene. Bon. Et le, donc c'était connu. Mais ça, visiblement, il s'en sert pas. Il a pas besoin. C'est une tradition orale. L'écriture était destinée à autre chose. Sur la question politique, c'était une question à l'époque, au 8e siècle, donc là, de très grande difficulté pour les monarchies face aux oligarchies dans les cités grecques d'Asie mineure, là où il y avait des colonies, donc il y avait effectivement de l'innovation, etc. Donc là, les Carlier, le grand historien, a montré qu'il y avait des grandes tensions. Ce qu'on voit de quand les nobles, comme Achille, se révolte contre le roi Agamemnon dans dans cette cité incroyable qu'est le camp des Grecs à Troie, parce que c'est une cité uniquement de guerre, ou bien quand il y a la révolte contre la famille d'Ulysse, donc à Ithaque. Donc là, il y a tout le problème du rapport entre la noblesse et le monarque, donc et les monarchies vacillent. Donc on est en pleine crise politique à ce moment-là, alors qu'on est aussi en pleine période de renaissance, de renouveau, etc., le 8e siècle. Et donc Homère compose pour se demander, mais qu'est-ce que c'est que l'ensemble des relations que l'on peut tisser dans une communauté qui est réglée?
C'est bien avant la démocratie athénienne, 5e siècle, etc. Mais ça pose le problème de la pluralité des nobles face à un roi, etc.
Et aussi, la norme fondamentale dans la cité grecque, pas à Troie, Troie c'est une autre civilisation, je pense, dans la cité grecque, qui est le camp, c'est le partage, justement, c'est la règle, c'est le partage du butin. Donc des guerriers plus ou moins valeureux ont accumulé du butin, Achille plus que tout autre parce qu'il est meilleur, mais il accepte que le roi, Agamemnon, est plus que lui et plus que les autres, même si Agamemnon n'a pas été un grand producteur de butin, et il faut que le butin soit total, sans absolument transparent devant tout le monde. Et la crise de l'Iliade, c'est que la captive d'Agamemnon, qui était la fille d'un prêtre, il faut la rendre, parce qu'elle appartient aux dieux.
Chrysée. Ouais.
Donc il faut la rendre, et ça Agamemnon
il l'a piqué à qui d'ailleurs?
Alors, ça c'est Achille qui l'a prise lors d'une conquête à la ville de Chrysée.
Et donc Agamemnon?
Alors Agamemnon l'a reçue parce que c'est une fille magnifique et il est content parce qu'il est le roi, mais c'est la fille d'un prêtre et le prêtre vient la chercher, prêtre d'Apollon. Agamemnon ne veut pas la rendre et du coup Apollon envoie la peste. Donc en fait, ça veut dire que cette fille ne pouvait pas être une captive. Elle fait pas partie du butin. C'est une singularité, si on veut. Et donc tout le système normatif du partage s'effondre, puisque Agamemnon est privé, il doit la rendre. Il est privé de sa captive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se rattrape en prenant la captive qui était une amie de Briseis, la captive d'Achille. Qui fait qu'Achille a perdu son honneur, a perdu sa captive. Il se met en colère. Et donc le système normatif de la cité s'effondre. Et ce système normatif, c'est le même que celui de la démocratie. C'est la même norme. C'est le partage, sauf que dans la démocratie, ça se fait différemment, par tirage au sort, etc., etc. Mais c'est toujours l'idée de partage que Platon va reprendre, etc. Bon. Et cette crise va produire une crise à Troie, aussi, où là, la cité va s'embarquer dans l'aventure, et une crise dans l'Olympe.
Le mot crise est très essentiel. Intéressant. C'est comme si, dès qu'il y a de la pluralité, qu'elle soit aristocratique, des nobles, pluriels face à un roi, modèle sans doute d'Homère en son temps, ou que ce soit la pluralité démocratique, il y a forcément de la crise. La crise, là, vous venez d'employer beaucoup ce mot, Pierre Judet de Lacombe. Frédéric Ildefonse, une chose que font les dieux dans la crise, c'est ce qui vient d'être dit, c'est quand même poser des interdits. Les femmes sont souvent des butins dans la guerre, mais celle-là, qu'a pris Agamemnon, ça n'est pas possible. Que veut prendre Achille, ça n'est pas possible. Il y a des interdits. Il n'empêche qu'ils ne sont pas tous parfaitement d'accord entre eux, les dieux, sur ces interdits eux-mêmes. Pour vous, tout ça, c'est du dialogue intérieur, c'est encore notre pluralité psychique, c'est aussi le fait que certaines choses ne peuvent pas être résolues. Il y a des règles du partage, mais parfois elles sont contradictoires, parfois le contradictoire demeure. C'est possiblement le chaos, la crise peut finir en chaos.
Alors sur l'affaire de Chryséis, je pense que c'est effectivement très très important.
Ah.
Enfin, Pierre Gisèle Lacombe le sait mieux que moi, mais ce que je veux dire, elle n'aurait pas dû être donnée. C'est un interdit religieux. Chrysès est prêtre d'Apollon. On ne pouvait pas, sa fille ne pouvait pas constituer un lot. Et donc, c'est une situation tragique, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est très, très mal passé et dont on va devoir assumer les conséquences. C'est-à-dire que donc, Agamemnon doit la rendre parce que Apollon est fâché, parce que son prêtre a été, comment dire, lésé. Et donc, c'est tout le développement inexorable de l'affaire, ensuite. Pour la crise, juste un instant... Il y a, en regardant l'Iliade, que je ne connais pas dans tous ses détours, je suis tombée sur un vers qui m'a particulièrement marquée, parce que on dit, finalement, il y a de la tension entre les dieux, c'est normal, ils sont multiples. Donc, dans le relationnel, il y a nécessairement de la tension qui s'inscrit. Mais ce vers dit, Héra au bras blanc, grâce à laquelle Eris et Neikos, donc la querelle et la haine, je ne sais plus comment Pierre Judet traduit, parce que bêtement je l'ai écrit en grec, sont le lot attaché aux immortels. Donc ce n'est pas seulement qu'ils sont plusieurs et que donc ils se querellent, nécessairement, presque mécaniquement, dans le jeu de leur rapport, mais c'est Héra. C'est Héra par laquelle la querelle et la haine sont attachées aux immortels. Donc vous voyez, il y a une double nécessité, si j'ose dire, à ce qui est de la querelle entre les dieux. Et Héra dit son mot. De même qu'Héra a dit son mot au moment où Zeus accepte de demander Athéna pour faire en sorte que les Troyens se parjurent.
C'est de même que Héra est présente, on l'a entendu dans le discours de Zeus à Arès, quand Arès dit à son père Zeus... C'est pas possible, ma demi-sœur Athéna est folle, etc. Dans le discours qu'on a entendu, Zeus lui rappelle qu'il faut qu'il se calme, il est quand même le fils de lui-même et de Héra, il lui demande d'avoir du respect aussi pour sa mère, enfin pour Héra, quoi. Donc c'est vrai que ce qui m'intéressait là, ce que je voulais vous demander, c'était la notion de contradiction qui vous avez parlé de tragique. Dans le tragique, il y a quelque chose qui ne peut jamais vraiment se dénouer.
Oui.
Alors, j'ai une autre question maintenant. Pierre Judet de Lacombe, je sais que vous dites souvent que l'Odyssée, par différence avec l'Iliade, c'est le moment où les dieux ne rôdent presque plus sur la Terre. Pour reprendre le titre de votre émission sur France Inter, quelque chose est terminé. Ils sont moins présents, moins puissants, moins actifs dans l'Odyssée que dans l'Iliade ?
Mais ils dorment.
C'est-à-dire ?
Non, mais ils dorment pas, mais je veux dire, ça commence par une scène divine, quoi, donc sur l'Olympe, et Athéna dit, bon, allez, quand même, ça fait longtemps qu'on a laissé Ulysse chez Calypso, là, il serait temps qu'il revienne chez lui. Alors, il nous a fait tellement de bien, cet homme, puisque c'est lui qui a pris Troie, et ça, c'est un vrai problème, ce long silence des dieux. Donc Calypso est une déesse, mais je veux dire, elle est reléguée, fille d'Atlas, dans l'ombre. Calypso, ça veut dire la mort, hein, c'est celle qui cache, quoi. Et je veux dire, Athéna se dit, mais quand même, non, faut pas le laisser tomber, cet homme. Alors, sans doute, il y a eu une colère d'Athéna contre Ulysse, puisque Cassandre a été violée, ou presque violée, dans le temple d'Athéna, etc. Donc les Grecs ont été vraiment très très mauvais par rapport aux dieux quand ils ont pris Troie. Donc là, il y a des fautes. Des fautes des Grecs. Et donc il y a une colère, il y a une tempête qui a dispersé tout le monde, etc. Donc, Athéna était dans cette tempête. Donc là, il y a un blanc. C'est-à-dire qu'il y a une très longue durée pendant laquelle les dieux n'ont pas fait comme dans l'Iliade, où ils interviennent pour que la guerre prenne telle ou telle direction. Donc il faut... On est vraiment après. Et c'est ça qui est intéressant. L'Odyssée, c'est très différent de l'Iliade, même si on peut penser que c'est le même groupe ou les enfants du même groupe qui ont fait...
c'est pas
les rockeurs vieillis.
Le groupe qui s'appelle Homère. Le groupe d'auteurs qui s'appelle Homère.
Pourquoi Homère ? Homère, ça veut dire, c'est le grand poète légendaire. La première trace du nom d'Homère qu'on a, c'est dans un jeu de mots chez Hésiode. Donc là où on parle des muses qui mettent ensemble. Mettre ensemble, ça se dit Homerosai, ils mettent ensemble leur voix. Donc ça, c'est visiblement une allusion à Homère. Donc Homère, c'est le poète par excellence. Et on peut imaginer qu'un groupe en Asie mineure s'est donné ce nom-là, en disant, vous savez, quand nous on chante, c'est Homère. Et donc après, on les a appelés Homère, après les Homérides, les fils d'Homère, etc. Et donc le groupe qui a fait l'Odyssée, qui est vraiment l'autre face de la médaille, si on peut dire, de l'Iliade, c'est le retour au présent. Comment on quitte ce monde extraordinaire, monde où les dieux, où les hommes sont comme des dieux, mais vivent une mortalité effrénée dans le massacre, qu'est la prise de Troie, qui est le plus grand acte qu'un homme puisse accomplir, que des hommes puissent accomplir. Comment on revient dans un monde répétitif, banal, voilà, avec la prose du quotidien, si on peut dire, qui sera Ithaque, une fois que Ulysse y reviendra définitivement.
Et entre les deux, il y a son voyage.
Alors, il y a ce voyage extraordinaire.
Mais ils sont fatigués, les dieux, après l'Iliade? Excusez-moi, mais je voudrais comprendre leur silence.
Non, mais ils en ont sans doute marre. Ils se disent, voilà, non, mais parce que la contradiction, c'est que les dieux, finalement, ont accepté la fin des Troyens, ce qui leur coûte très cher, puisque le mortel que Zeus préfère, c'est Hector. Et la ville qu'il préfère, c'est Troie, parce que c'est la ville la plus riche, qui fait des sacrifices gigantesques. Les Grecs sont beaucoup plus pingres, sont plus pauvres, d'une certaine manière. Et donc, les dieux acceptent que ces humains qui les vénéraient disparaissent, parce qu'ils étaient tellement dans la gloire, dans la joie de vivre, dans l'amour, etc., qu'ils ont fait des transgressions, les Troyens. Eh bien, donc, il faut accepter une forme de pauvreté. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut sauver Ithaque, quand même, c'est-à-dire sauver Ulysse.
Mais donc c'est quand même la question politique qui revient.
Alors c'est
et
complètement politique. Et là, et Nicole Leroux a mille fois raison, parce que Ulysse tue les prétendants, ce qui est horrible dans une certaine version. Pas dans Homère, Ulysse est jugé et condamné à l'exil parce qu'il a tué les prétendants et c'est le fils d'Achille qui récupère son royaume, bon, etc. Mais je veux dire, lui, il peut revenir chez lui, mais il veut aussi tuer les parents des prétendants, c'est-à-dire les gens de sa génération. Et Zeus l'arrête au tout dernier moment, et Zeus dit, je veux qu'il y ait l'oubli de tout ça. Donc c'est l'amnésie, l'amnistie, on n'en parlera plus, parce que c'est trop violent ce qui s'est passé entre Ulysse et les prétendants, et ensuite la guerre avec les parents des prétendants. Il faut arrêter la guerre civile, qui est ignoble, parce que le massacre des prétendants, c'est ignoble. C'est bien pour Ulysse, de manière il rétablit la continuité, mais c'est un crime. Et Zeus arrête, mais il faut l'oubli. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une contradiction performative, puisque on a la mémoire du moment où Zeus dit il faut l'oubli. Et ça, c'est toute l'épopée qui permet ça. L'épopée transgresse la loi de l'amnistie et de l'amnésie dont a parlé si bien Nicole Leroux, et qui fonctionnait parfois dans les grands moments critiques en Grèce. Je veux dire, il faut se remémorer tout ça. Comme la tragédie sert à se remémorer, à réactualiser les immenses cruautés et horreurs du passé. Plato's fond for ivy eyes snare tooth in bone and globe. Harlequins playing pointless games, snare jokes in parrot's robe. Two women weep, dame scarlet.
In the Wake of Poséidon, c'est le King Crimson, le groupe de King Crimson en 1970 qui chante ça, et ça me fait penser qu'on n'a pas assez parlé de Poséidon, mais c'est pas grave, c'est infini, Homère, on en reparlera un jour. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Ildefonse et Pierre Judet de la Combe. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms, c'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la conversation est-elle vitale? Nous avons le sentiment aujourd'hui et presque la nostalgie dans les divisions, dans les dystopies, dans les conflits qui nous opposent, dans les contradictions qui nous séparent. Nous avons la nostalgie de ce qui nous réunit, de tous ces termes qui commencent par ces préfixes de la réunion, du commun, de la symbiose, tous ces termes de la sympathie à la coopération, à la conciliation, au contrat qui est au cœur évidemment de nos sociétés. Nous en avons la nostalgie, mais nous sous-estimons leur puissance. Ce n'est pas seulement une sorte de bon sentiment qui fait du vivre ensemble, du travail en commun, une sorte d'expérience naïve et unitaire, forcément simplement opposée à la diversité qui engendrerait le conflit et la guerre. Même dans ce terme le plus anodin de tous, le plus ordinaire, celui dont nous vivons et dont nous regrettons parfois la fragilisation ou la disparition, même dans ce petit mot de conversation, il y a beaucoup de choses difficiles à surmonter pour en faire ce qu'il y a de plus vital dans la vie humaine. Bien sûr, la conversation, c'est la conversation ordinaire, qui suppose cependant des espaces préservés, qui suppose dans la vie intime comme dans la vie publique, des espaces où l'on peut se parler librement de choses et d'autres, sans chercher à effacer le point de vue de l'autre dans ce qu'il a de singulier, de différent et de parfois contradictoire d'une autre. Il faut pour cela des espaces d'égalité, même dans la vie privée, des cafés, des lieux publics où l'on peut converser, des espaces ménagers à la conversation dans le temps de travail, dans la vie sociale. Et l'on sait que c'est devenu très rare. Il y a même une étude qui montre que la disparition des cafés-tabac est en proportion directe avec la montée du fascisme et de l'intolérance. Quand il n'y a plus de lieu de conversation, alors les opinions se radicalisent. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut réduire la conversation à une sorte de bon sentiment généralisé. Il faut pour cela se reporter au contraire à l'un des plus grands textes de l'histoire de la philosophie. Le chapitre 8 du livre 3 des Essais de Montaigne, ce magnifique texte intitulé « De l'art de converser ». Dans ce texte, Montaigne explique justement comment la conversation, c'est l'épreuve de la différence de l'autre dans l'action commune, dans la recherche commune de la vérité. « Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune de l'un et de l'autre. Les contradictions ne me blessent ni m'émeuvent, elles m'éveillent seulement et me mettent en action. Je fais fête à la vérité et je la chéris en quelques mains que je la trouve. Même dans la main de l'autre, même dans la parole de l'autre, même quand ça blesse mon opinion préconçue, même quand je dois accepter, évidemment, comme dans les dialogues de Platon et de Socrate, mais d'une manière peut-être plus concrète et plus vive dans ce magnifique essai de Montaigne. La conversation, ce n'est pas toujours facile, ça peut tourner à la dispute, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais précisément nous savons qu'une bonne conversation traverse toutes ces épreuves de la contradiction pour arriver sinon à une opinion partagée, du moins à la reconnaissance que la pensée est un acte commun.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Luna Hajla et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Carla Michel, Nassim El Kabli et Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.